Radio Barque 6e, notre deuxième partie, telle que nous l'annoncions dans notre sommaire en début d'émission, Michel, c'est la mission d'un député, de Narbonne ou d'ailleurs, telle que tu le vois et telle qu'il faudrait que cela se passât.
Je ne sais pas si on peut le présenter comme ça, mais en tout cas, j'ai été, encore une fois, surpris, non pas choqué, mais surpris, encore que bon, la matière, c'est tellement banal que je n'avais aucune raison vraiment de l'être surpris, j'entends. La conférence de presse donnée par Marilène Fabre, la députée socialiste
sur son bilan de Narbonne, député,
qui présentait le bilan de sa mandature. Alors, c'est quand même curieux hein, de voir ces députés de la majorité présidentielle qui dressent un bilan non pas de leur mandature de député, donc d'élus fabricants des lois.
Oui, puisqu'il faut rappeler que c'est la base.
Je vais y venir. Mais présentant voilà, un bilan que pourrait présenter, après tout, le maire de Narbonne, hein, un président d'agglomération, un responsable viticole, un vice-président de la région, un inspecteur d'académie. Oui, j'ai travaillé pour que l'école machin truc soit prise en compte et qu'on y affecta en fait, un enseignant de plus. Bon, je veux dire, ou même un responsable d'une association de développement local. Hein, j'ai contribué à la promotion de la viticulture narbonnaise. Enfin, je veux dire, on lit ce genre de choses, ou à peu près, hein, j'exagère un petit peu quand même, bien
oui.
entendu, mais c'est l'esprit. Hein. Alors que quand même, que je sache, hein, le seul bilan dont ils sont comptables devant leurs électeurs est celui de la majorité à laquelle ils appartiennent, les lois qu'ils ont votées ou pas votées, hein, et les résultats du gouvernement qu'ils soutiennent, au regard des engagements, évidemment, et des propositions défendues devant les électeurs qu'ils ont portées à l'Assemblée. Pour défendre, promouvoir une politique en fonction d'engagements effectivement pris devant eux. Eh bien non. On fait comme n'importe quel agent de banque local ou maire, ou président d'agglo, on présente une série d'actions comme si elles relevaient de leur initiative ou de leur responsabilité, ce qui n'est évidemment pas le cas.
Ouais, mais ce que tu dis là, évidemment, c'est la base, c'est comme ça que ça devrait se passer. Seulement, c'est un petit peu abstrait de parler du gouvernement et des lois, tandis que là, ben, on se rabat sur des choses concrètes et on fait ça comme, en quelque sorte.
Oui, mais il faut quand même rappeler à nos auditeurs qu'un député n'a pas de mandat impératif. Alors, je m'explique, hein, un député n'est pas l'élu d'un territoire et des électeurs de son territoire.
Oui, mais ça peut.
C'est le représentant de la nation. Tout entière.
Exact.
C'est-à-dire que du jour où il est élu, hein, il n'est plus l'élu de Narbonne, hein, il est élu de la nation tout entière.
Oui, mais
et c'est en ce sens d'ailleurs, mais excuse-moi Jean-Claude, de mon auditeur, c'est pour ça, entre autres d'ailleurs, qu'on n'exige pas d'un député qui se présente sur Narbonne
d'être
domicilié. Qui paye ses impôts fait à Narbonne.
Oui.
N'importe quelle personne habitant Valenciennes fait, ou Lille pourrait très bien se présenter effectivement comme député. Dans la circonscription.
Seulement.
Mais pour la raison évidente que je viens de donner, à savoir que ce n'est pas le représentant du territoire, mais de la nation tout entière.
Mais comme il est élu sur un territoire, justement, une circonscription, ben ce lien se fait, alors peut-être à tort, mais il se fait forcément.
Oui, bien sûr, mais ça permet effectivement de la communication personnelle, de dire voilà, je suis là, je m'occupe de vous, en fait, dans tous les petits détails de votre vie quotidienne, un peu bon, comme Didier Mouly qui reçoit bon, tous les mois, en fait, hein, ses administrés pour leur dire bon, je ne peux pas vous trouver du travail et je ne peux pas vous trouver un logement, donc allez voir ailleurs. C'est encore un peu ça, quoi. Ça sert effectivement à dire je vous écoute, hein, je vous ai entendu, mais
oui,
bon,
voilà.
Je ne peux rien faire, malheureusement, de concret vous concernant précisément.
Oui, oui. Alors finalement, la façon dont ça se passe, ça me rappelle une célèbre citation de Coluche. Écrivez-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez.
Ce que je veux dire par là, c'est que, indépendamment de la personne, de ses qualités personnelles, en fait,
oui,
humaines,
qui après
tout
bon,
joue
voir,
aussi un rôle dans la perception que peut se faire un électeur de son député. Hein, et que, après, souvent d'ailleurs, des électeurs jugent de leur député de ce qu'ils ressentent, hein, de sa sensibilité, de son caractère,
bien
de son
sûr,
jugement.
Il y a l'homme ou la femme.
Et ça joue
femme,
un rôle, effectivement,
humain.
dans le choix que l'on fait ou pas de telle ou telle personne. Mmh. Mais cela dit, l'attention que je voulais apporter, en fait, en la matière, hein, celle de nos auteurs, en particulier, c'était de celle-là, à savoir que ne vous laissez pas leurrer par ce genre de comportement, en fait, hein, c'est un leurre qui, tout simplement, permet à ce genre d'élu de faire oublier les résultats, les réalisations de la majorité à laquelle ils appartiennent et les programmes pour lesquels ils ont été élus, indépendamment effectivement des partis auxquels ils appartiennent.
C'est une façon.
Et donc voilà, messieurs les auditeurs et lecteurs, soyez tout simplement pas naïfs du tout. Sachez que ça fonctionne comme ça.
Mais bon, on n'empêchera pas que c'est une façon un peu de noyer le poisson et que ça se passe comme ça depuis des lustres et que Michel, je crains que ça ne continue à se passer.
Oui, et ça pose effectivement un autre problème, enfin, qui est peut-être celui beaucoup plus profond et fondamental, qui est celui de comment doit-on élire nos députés ? Est-ce qu'après tout, une petite dose ou une grande dose de proportionnel qui justement ne lie pas en fait personnalité à un territoire,
ne serait pas effectivement
une bonne réforme qui permettrait de donner un peu plus de réalité à ce qu'est vraiment la représentation nationale dans ce pays.
Ça collerait davantage à la réalité, peut-être. Alors, Anna, restons sur Narbonne, même si le député de Narbonne n'est pas député de Narbonne. Je reprends Michel Santou. J'espère que les auditeurs ont déjà noté sur leurs agendas la date historique du 18 décembre 2018. C'est, paraît-il, celle à laquelle le maire de Narbonne va inaugurer la grande salle. C'est un panneau qui en atteste.
Ah oui, le panneau n'est pas petit. Il faut vraiment... Faut-il
tomber dans le panneau ?
Il faut pas le louper. Quand même, à la décharge de monsieur le maire, il n'a pas précisé l'heure en fait à laquelle il entendait effectivement. C'est le 18. Peut-être un oubli de sa part, quoi. Après tout, on peut dire le souci de la précision de cette inauguration, ce sera le 18 à 19h30 ou à 18h.
Assez inédit.
Je n'ai jamais vu ce genre de choses. Peut-être dans ma carrière administrative, où Dieu sait si mon président de l'époque était attentif à ce que l'on planta des panneaux, qui montraient bien que cette réalisation relevait de la seule initiative de la région.
Tout le monde le fait. D'annoncer un futur chantier, tout le monde le fait, ça.
Oui, mais jamais, 2 ans avant, avec une date, en plus de la date, parce que, quand même, il peut se passer des trucs, c'est rien, moi. Un recours devant le tribunal administratif, de la délibération.
Allez savoir. On sait qu'il y a des opposants qui sont relativement actifs sur la ville.
Alors justement, d'ailleurs, ça me permet de faire observer que les opposants à cette salle sont de plus en plus nombreux, et en tout cas manifestent de plus en plus leur opinion. Encore dimanche, j'allais au Halles, je suis tombé sur une délégation du PS qui distribuait des tracts jaunes pour dire qu'il ne fallait pas la salle de multimodal. J'ai croisé aussi, un peu avant d'ailleurs, Virginie Virginaux, qui est celle qui a l'initiative d'une pétition pour éviter que cette salle s'installe là précisément et pourquoi pas ailleurs. Enfin bref, on sent que monte une certaine contestation critique devant cette réalisation qui est considérée par eux comme inutile, coûteuse.
Disons aussi que certains opposants sont des opposants politiques.
Bien sûr.
Ça aussi, il ne faut pas se laisser tromper évidemment. Par ça.
On connaît mon opinion sur ce sujet. J'ai déjà chroniqué dans mon blog ici pour dire tout le mal que je pense de cette salle, non pas de point de vue de sa nature en elle-même, mais du point de vue de l'état des finances de notre ville et surtout des priorités en matière d'investissement qui devraient orienter plutôt la vision du maire et ses financements vers d'autres programmes, notamment des aspects patrimoniaux beaucoup plus anciens que ceux qu'il veut nous proposer pour l'avenir. Donc voilà, on est là. Quand même, peut-être noter que si ce panneau a été mis si tôt, c'est peut-être parce que l'on sent monter une critique, contestation, et que l'on veut bien montrer à ses opposants qu'on a bien l'intention de faire quoi qu'il arrive le 18 décembre.
Voilà, appelons ça, avant une deuxième pause, la réponse du berger à la bergère.
Exactement.
Et on retrouve tout de suite après, dans une troisième partie, l'historienne narbonnaise Chantal Alibert.